6h04, mercredi 21 octobre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. C'est une journée de pluie, des averses. Ça commence ce matin, on parle de 15 à 25 mm de pluie pour l'ensemble de la journée, avec des vents 20, 40 et peut-être même en après-midi, des rafales à 50 km/h, le maximum prévu autour de 18 degrés. Les averses vont cesser en soirée, dégagement par la suite. Donc, c'est une journée, là, vraiment beaucoup, beaucoup de pluie. Pour ce qui est de jeudi, on prévoit une alternance de soleil et de nuages. Les vents sont légers, maximum 15 degrés. Et vendredi, nuageux, toujours là, possibilité d'averse, mais faible. Maximum, là, c'est 24 degrés. C'est assez incroyable pour vendredi. Et pour la fin de semaine jusqu'à maintenant, samedi, on prévoit de la pluie intermittente et ça tombe à 11 degrés comme maximum. Finalement, du soleil dimanche et 7 degrés. D'abord, le point sur la COVID. Hier, on nous a dit en gros que ça semble, je dis bien ça semble, vouloir se stabiliser. Ça demeure élevé, autant au niveau des cas que des hospitalisations, soins intensifs. Mais en même temps, ce qui est clair aussi, c'est que les Québécois ont besoin d'une lueur d'espoir. Et autant M. Legault que M. Dubé, hier, on dirait peut-être allumer une petite flamme en disant que, parce que la date, je vous rappelle, c'est le 28 octobre, là, le fameux 28 jours, là, ça se termine la semaine prochaine. Et c'est pas scientifique ce que je vais vous dire, là, mais je le vois, on a fait une tribune téléphonique hier, je lis vos commentaires. Les gens ont besoin de retrouver certains contacts. Les jeunes, par exemple, au niveau du sport, c'est plus essentiel que vous pouvez peut-être le penser. Deuxièmement, tout ce qui touche, par exemple, la restauration. Et je ne parle pas juste au niveau économique pour les restaurateurs. Les gens ont besoin de se retrouver, de pouvoir échanger. Je comprends là, qu'on tente de limiter les contacts, que les chiffres qui sont présentés ne sont pas vers le bas. On n'est pas en train d'aplatir la courbe, là. Mais quand même, disons que je sens ça, cette espèce de dire, ouais, j'y adhère, là, mais en bon Québécois, donne-moi un break. Puis j'en ai vraiment besoin. Et c'est pas au niveau des caprices, là. Je pense que les gens en ont réellement besoin. D'autre part, en termes d'éclosion, parce que c'est important, le docteur Arruda nous a dit 46 % des cas proviennent du milieu du travail. Pourquoi? Ce ne sont pas des clients qui viennent contaminer des employés. C'est souvent le relâchement milieu de travail. Moi, on me donne des exemples. Là, à Poste Canada, je ne sais pas s'il y a eu des cas où les règles sanitaires sont plus ou moins respectées, des chantiers de construction. Donc, ça a levé le pied. Aaron Derfeld, dans ses messages sur Twitter, a publié une liste de secteurs d'activité où il y a eu des cas. Malheureusement, à partir des données, ça demeure flou. Est-ce qu'il y a tant de cas reliés à des bars, à des gyms, à des restaurants? La question est posée, là. C'est pas qu'il n'y en a jamais eu, mais quand même. Et l'autre chose qu'on se rend compte, c'est que les chiffres concernant les cas sont parfois assez loin de la réalité, notamment pour ce qui est des résidences ou des CHSLD. Et je vous le disais, Radio-Canada avait sorti un tableau et le ministre a reconnu que la liste des cas dans les établissements n'est pas nécessairement à jour. C'est complètement aberrant, vous et moi, là, que la machine ne soit pas capable de donner un portrait plus juste de ce qui se passe. Donc, on verra bien quelles seront les mesures prises, mais c'est sûr qu'il y a une soif pour les gens de retrouver un tantinet de liberté. Parce que ça commence à peser lourd, puis là, avec des journées de pluie, puis des journées de grisaille, puis l'automne, pas l'automne, mais le mois de novembre, pardon, qui s'en vient. Disons que c'est pesant. Entre-temps, le premier ministre nous a dit hier qu'on n'a pas trop le choix, que le système de santé est à bout de souffle, je reprends ses mots. On connaît la faiblesse structurelle du réseau, c'est-à-dire pénurie. On a compensé un peu pour ce qui est des préposés aux bénéficiaires, mais pour les infirmières, ça demeure problématique. Tout le monde est épuisé, tout le monde est fatigué. Et hier, François Legault a dit il n'est pas question d'augmenter plus que l'inflation, la rémunération des infirmières, mais on va essayer de trouver un moyen d'améliorer les conditions. Encore là, ce n'est pas scientifique. beaucoup d'infirmières m'ont écrit. Je vous dis pas que la paye n'est pas un enjeu, là. Ce l'est pour tout le monde. On ne se comptera pas d'histoire. Puis, est-ce qu'elle mérite des augmentations plus importantes? Sans aucun doute. Mais ce qui est le plus fondamental, c'est l'organisation du travail. C'est, quand tu es infirmière au Québec, avoir la certitude que quand tu auras terminé ton quart de travail, tu vas pouvoir rentrer chez vous. Et qu'il n'y aura pas du temps supplémentaire obligatoire comme outil de gestion. Je ne suis pas un spécialiste là, des ressources humaines, puis comment on aménage les horaires. Il y a des gens qui nous donnent des exemples, notamment du côté anglophone, où on a l'air d'être capable de mieux s'organiser avec des journées de 12 heures qui semblent appréciées. Je ne le sais pas. Mais la clé, elle est pas mal là. Je comprends que le salaire va demeurer un enjeu, mais tu veux bien travailler dans le réseau, puis être à l'hôpital, puis être dans les centres de soins de longue durée, mais tu veux sentir que tu n'es pas pressurisé, quoi qu'il arrive. Il y a certains gestionnaires qui ont des méthodes assez douteuses concernant la gestion du personnel. Alors, il y a peut-être quelque chose là. D'ailleurs, les infirmières vont faire des moyens de pression ce matin. Ça ne sera pas un pont, là, je vous le dis tout de suite. Mais il y aura publication d'une espèce de palmarès des centres, de soins de longue durée au Québec. C'est autour de 8 heures ce matin que ça va se faire. Je veux vous parler aussi des menaces. Je trouve que globalement, on est rendu à un point, là. Tu sais, tu dis, est-ce que c'est le fruit du confinement? Est-ce que c'était latent, puis là, ça éclate? Les menaces contre Geneviève Guilbeault. T'arrêtes un gars, t'es obligé de te servir du taser gun. C'est un récidiviste à Québec. Docteur Arruda qui nous confirme, on le savait, là, qu'il était protégé parce que les gens vont manifester devant chez lui. T'as des cinglés qui font toutes sortes de menaces sur les réseaux sociaux. Valérie Plante, qui reçoit des menaces, on arrête quelqu'un. Et c'est pas la première fois qu'elle reçoit des menaces. C'est inacceptable. La moindre menace devrait être suivie d'une plainte. Et que ces gens-là soient traduits devant les tribunaux, ça n'a pas de maudit bon sens. Être en désaccord, c'est une chose. Et le niveau de langage, ça n'a plus de bon sens, là, sur les réseaux sociaux. Et pas juste que sur les réseaux sociaux. Comme disait quelqu'un, peu importe le sujet litigieux, peu importe le niveau de controverse, quand tu prétends vouloir dialoguer, viens pas me dire de fermer ma gueule de façon cavalière et impolie. Et ça, je pense que depuis quelques semaines, là, on le voit, là. L'agressivité, je comprends l'anxiété causée par la pandémie, mais tout ça, là, c'est une vaste carte de haute tension, là. Tu sais, quand le président des États-Unis délire régulièrement, dit que l'expert, c'est un idiot, tu sais, juste le choix des mots, là. Et là, vous avez toutes ces rumeurs complotistes qui délirent. Puis là, les gens sont frustrés. Et là, on voit ce que ça donne. C'est l'augmentation du nombre de menaces contre des personnalités politiques, c'est en croissance exponentielle. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un problème? Et entre-temps, pour les amateurs de sondages, vous dire qu'il y a un léger Le Devoir qui est publié et qui nous montre que la CAQ n'a pas vraiment perdu d'appui depuis le début de la crise. François Legault aurait obtenu 50 % du vote populaire si les élections avaient eu lieu dans les derniers jours, le 16 et 18 octobre. Le taux de satisfaction est à 74 %. Ça entend que 50 % là, dans un paysage politique avec plusieurs partis, ça se voit à peu près jamais. Et un taux d'approbation de 74 %, c'est quand même très élevé. Les libéraux de Dominique Anglade à 18 %. Seulement 7 % des libéraux du vote francophone. La CAQ va en chercher 60 %. Le PQ est à 16. Ça n'a pas tellement bougé. Et Québec solidaire est à 13 % pour ce qui est du volet fédéral. Puis je reviendrai tantôt avec le climat préélectoral à Ottawa. Justin Trudeau, pardon, est en avance, mais c'est pratiquement là, du coude à coude avec Yves-François Blanchet du Bloc québécois. Ils sont en gros là, à 33-34 % des intentions de vote. Bon, revenons sur le dossier de l'Université d'Ottawa. Je prends l'exemple du Devoir ce matin qui illustre très bien ce qui se passe parce qu'on parle d'une guérilla idéologique. Et c'est ça qu'on a. D'abord, il faut dire en toile de fond que des incidents ou événements à caractère raciste à l'Université d'Ottawa, il y en a eu plusieurs. Ça peut expliquer le niveau de tension. Mais si on résume les faits, il y a cette enseignante qui veut utiliser le fameux mot pardon, commençant par N. Puis là, vous allez me dire encore une fois pourquoi tu ne dis pas le mot. Parce que si je le dis, vous allez hurler d'un bord ou de l'autre de la clôture. Fait qu'on sait, vous et moi, de quoi on parle. Je pense que c'est ça qui est plus important. Donc, c'est une chargée de cours qui voulait donc utiliser ce mot dans un cadre qui n'était pas une insulte, qui n'était pas une agression, là, qui était de dire « parlons-en ». Et ce que les profs disent de façon générale, dans le monde universitaire, la liberté de parler pour comprendre l'histoire, pour comprendre pourquoi ces mots-là ont existé, ben il faut le faire. Des étudiants, étudiantes, se sont sentis agressés, attaqués. L'enseignante a été larguée par le recteur et par la direction. On ne l'a pas rencontrée, on l'a tassée, et on a dit aux élèves, si vous ne la voulez plus comme prof, on va vous trouver quelqu'un d'autre. Il y a eu ces professeurs, 34, qui ont signé une lettre d'appui en réitérant l'importance de la liberté d'expression. Ce matin, dans Le Devoir, d'autres professeurs signent une lettre, toujours de l'Université d'Ottawa, se disant solidaires avec les collègues noirs, autochtones, nos étudiants de l'Université d'Ottawa. Nous tenons à exprimer notre indignation face à l'utilisation par nos collègues de leur pouvoir, de leur privilège pour contribuer aux structures de la suprématie blanche pour défendre aveuglément la liberté universitaire au prix de la lutte anti-racisme dans divers médias. Et vous irez lire leur lettre en disant qu'il est normal que des étudiants se sentent attaqués. Alors, quand je vous dis, là, on est face à deux camps complètement différents. Et c'est pas juste un débat, là, c'est une guerre de mots avec des menaces. Quand vous avez des profs, parce que là, les étudiants attaquent sur Twitter, qui reçoivent des messages où on veut les envoyer se faire rééduquer. On n'est pas dans la Chine de Mao, vous pensez? Je veux dire, il y a un côté, là, facho, qui dépasse l'entendement. Des profs également qui se voient menacés d'être attaqués à l'université. Il y a des profs qui décident d'être à distance, pas parce qu'il y a une pandémie, parce qu'il y a un problème. Dans Le Devoir, on donne le cas d'un prof qui a une garde partagée puis qui a décidé d'envoyer son enfant chez l'ex parce qu'il y a des craintes. Il y a un niveau de tension qui demeure extrêmement élevé. Hier, on a vu que Québec s'est rangé du côté de l'enseignante. Du côté du NPD, Jack Meeting a dit que c'était épouvantable ce qui se passait à l'Université d'Ottawa puis qu'il fallait comprendre les étudiants. Alors, c'est un débat là, qui polarise beaucoup. Puis j'ai vu hier les messages sur Twitter de ce prof de l'Université d'Ottawa qui tient des propos sur les francophones. D'abord, sur le plan factuel, qui sont erronés et qui contribuent à mettre de l'huile. Alors, est-ce qu'on voudrait qu'on s'attaque à ce prof? Non. Il a le droit de s'exprimer, puis on a le droit de lui répondre. Le problème, là, c'est qu'on est en train de déborder vers des actions qui sont de l'intimidation. Alors, les gens qui dénoncent l'oppression sont les premiers maintenant à vouloir intimider au nom de la rééducation. Entre vous et moi, il faut le faire. Maintenant, au fédéral. Justin Trudeau regarde la partie et se dit la chose suivante. Tout est parfait pour que je puisse gagner. En avance dans les sondages. On est encore dans une crise. Et il y a peut-être deux scandales qui me pendent au bout du nez. Pas envie que ça dégénère. Et peut-être compromettre une réélection. Alors, il y a une motion des conservateurs. Justement pour dénoncer tout le scandale autour de ce mouvement, le mouvement uni, le We Charity. Et M. Trudeau a dit, on va en faire une question de confiance. Et là, les conservateurs, évidemment, vont voter pour le Bloc québécois. Reste le NPD. Que va-t-il faire? Et là, je vous dis, Trudeau, il veut probablement aller en élection. Il ne veut pas avoir le dû de déclencher l'élection. Alors, est-ce qu'il va faire un arrangement avec Jack Meeting et le NPD? Peut-être. Et les scandales commencent à apparaître. Donc, il y a celui de ses amis, ce mouvement unique qui embauche son frère, qui embauche sa mère, qui avait été retenu pour gérer l'argent du fédéral. Et là, ça a été, évidemment, probablement une des plus grandes dérapes du gouvernement Trudeau. Finalement, le mouvement uni s'est retiré de la partie. Et là, ce matin, le Journal de Montréal, puis c'est sorti aussi par le biais des conservateurs, on nous parle d'une firme qui a vendu, et en fait qui a obtenu un contrat du gouvernement fédéral pour faire des ventilateurs. Quand M. Trudeau disait au printemps, on demande à des entreprises de se convertir et, pour mettre fin à notre dépendance face à l'équipement médical, d'être capable, par exemple, de faire des ventilateurs. Donc, le gouvernement Trudeau a fait un contrat de près de 250 millions pour acheter des ventilateurs à une entreprise. Et c'est là que ça glisse. Tu as une entreprise qui s'appelle FTI, ou FTI, Professional Grade, qui obtient le contrat, mais qui tout de suite le donne en sous-traitance à qui? À une entreprise qui appartient à un ancien du Parti libéral. Ancien député et ex-organisateur, M. Frank Bellis. Et les mêmes ventilateurs sont fabriqués, là, parce que c'est une entreprise d'Irlande, nous dit le Journal de Montréal, qui a fourni les devis pour permettre justement la fabrication de ces modèles. Ça coûte 13 000 $ canadiens si c'est fait en Irlande. Si c'est fait au Vietnam, c'est à peu près 9 200. Puis au Canada, c'est 23 700. Alors, est-ce qu'il y en a qui en ont profité? Fait qu'une couple de petites affaires comme ça. Vous avez aussi Radio-Canada, Daniel Leblanc, qui a ressorti l'histoire des nominations de juges, qui avait déjà été publiée par le Globe and Mail à l'époque, où on disait que dans la façon de choisir les juges, elle nous a rappelé l'affaire Bastarache à Québec, puis les post-it, l'affiliation politique était un enjeu majeur. Autrement dit, il n'y avait pas juste les compétences professionnelles, mais il y avait aussi... As-tu contribué? As-tu milité au sein du Parti libéral? Et bref, est-ce que ça aussi, c'est matière à scandale? Donc, il y a quelques dossiers brûlants qui tournent autour de M. Trudeau et on verra finalement si, oui ou non, ça va débloquer. Et puis, un mot ce matin sur cette idée présentée là, à la Ville de Montréal, les sociétés de développement commercial, Vivre en ville, qui ont pensé à une nouvelle taxe sur les livraisons pour revitaliser le commerce sur les artères et pour dire qu'en gros, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez des camions qui circulent, ça vient abîmer le matériel urbain puis il y a des coûts, alors on va taxer. C'est une idée, là. Mais on connaît les idées de taxes, à quel point ça peut cheminer rapidement. Sérieusement, là, on va parler avec quelqu'un qui a eu cette idée-là tantôt, là, M. Savard de Vivre en ville. Les gens ont besoin d'une pause. Sacrez-nous patience avec tout ce que vous avez comme taxe, comme idée, là. Le programme d'aide, je le dis, là, le programme d'aide du gouvernement du Québec pour les restaurateurs puis les autres entreprises qui ont été obligées de fermer pour un mois, là, minimum, c'est un cauchemar administratif. C'est vraiment, 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 là, tout pour emmerder le monde. On a lancé ça dans le cours des MRC, Investissement Québec. Je vous le dis, là, ça n'a pas de maudit bon sens. On aura l'occasion d'y revenir. 6h24. Comment ça roule sur la 40, mon ami?